Donc, nous avions en principe, nous avions terminé avec le premier à Timothée, mais comme souvent, quand je relis après, il y a des choses qui nous disent qu'il faudrait qu'on revoie. Avant donc de passer de la deuxième épître à Timothée, j'aimerais relire certains passages, voir certaines exhortations là. C'est depuis le verset. Oui, disons, depuis le verset 13, des faits là, des réalités, des réalités que nous ne devons pas abandonner, pas oublier, de ce qu'est le Dieu que nous adorons, que nous servons, que nous écoutons. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Donc, devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, c'est ça que j'aimerais encore relever, il donne la vie à toutes choses. Et si nous pouvons faire des projets, nous pouvons avoir des bonnes pensées, des bonnes intentions, mais il faut que ce soit lui qui donne cette vie à ce que nous voulons faire, conformément à sa parole. On peut voir la parole, mais il faut avoir aussi celui qui donne la vie. Pas seulement avoir, disons, une connaissance d'une certaine chose, mais dans la pratique, il faut une certaine force. On peut savoir qu'il faut faire ceci, cela, mais quand il faut réaliser la chose, eh bien, on a besoin de davantage que de connaître. On a besoin de la force elle-même, de la vie elle-même. On peut très bien savoir comment il faut labourer un petit bout de terrain, un carreau, mais quand il faut labourer, il faut avoir la force. Pour aller jusqu'au bout, c'est vrai, on peut bien commencer, mais il faut avoir quand même la force pour pouvoir arriver à achever, pour préparer la chose. Et je pense que dans le domaine spirituel, c'est aussi important qu'on puisse bien se souvenir, comme elle nous fait rappeler ici, devant Dieu qui donne la vie à toute chose. Donc, je recommande, et aussi devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, je te recommande quoi? Verset 14, de garder le commandement. Bon, quel commandement? Quand il dit de garder le commandement, parle de le commandement. Eh bien, quand on a demandé à Jésus quel était le plus grand de tous les commandements, il a dit clairement, écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu, est l'unique Seigneur, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de toute ta pensée. Donc, quand il dit garder le commandement, oui, c'est oui, on doit garder la parole. Tous les commandements de la parole, mais garder le commandement en particulier, c'est vraiment garder à ce seul Dieu, s'attendre à un seul Dieu, rechercher la communion de ce Dieu qui s'est révélé dans la parole et en Jésus-Christ. Encore une fois, la parole a été faite chair et elle a été mise en pratique par le Seigneur Jésus-Christ et il veut prolonger ses jours, poursuivre son œuvre, c'est-à-dire son œuvre, c'était de manifester ce que c'était qu'un croyant, ce que c'était qu'un fils de Dieu qui marche avec son Père, qui agit avec son Père. Et les œuvres qu'il a faites, il a dit que si on croit en lui, on ferait les mêmes œuvres. Ça veut dire qu'on est appelé à agir comme il a agi, à pratiquer cet amour pour Dieu, premièrement, et à maintenir notre foi dans un seul Dieu, non pas nous laisser attirer par des ceci, par des cela. Bon, les gens ont beaucoup de dieux, ça peut être le dieu des sports, ça peut être le dieu de la science, ça peut être le dieu de la politique, je ne sais pas, il y a beaucoup de dieux dans le monde, mais il faut savoir qui est vraiment Dieu qui donne la vie et qui a des intentions d'établir un royaume pas selon la pensée de l'homme, mais un royaume selon ce qu'il a dit et selon ce qu'il a pratiqué aussi. Parce que dans la manière de vivre de Jésus-Christ, eh bien, on avait quand même la démonstration de ce que c'est que le royaume de Dieu. Ainsi, c'est bien cela, c'est le royaume de justice, de paix, de joie, d'amour que Dieu veut manifester. Mais seulement, il faut garder le commandement, comme il dit ici. Et il est dit, donc, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est l'avènement, l'apparition jusqu'à ce qu'il revienne, et il va revenir comme c'est écrit, de la même manière qu'il est parti. L'apparition, c'est pas une apparition passagère. Là, il parle de l'apparition, c'est-à-dire la venue du Jésus-Christ pour chercher son épouse, puisque c'est le premier événement. Quand il vient, la première fois, il vient seulement sur les nuées, et c'est l'épouse qui s'en va à sa rencontre, mais c'est la première venue. Mais après, il va venir avec son épouse, c'est vrai, et il va venir sur la terre, et il va établir son royaume de justice et de paix, il va l'établir sur la terre. Amen. Donc, c'est important qu'on réalise bien la puissance de Dieu, le Dieu qui est toujours le même Dieu vivant, c'est lui qui donne la vie à toutes choses, et puis ce commandement qu'il nous a donné, de l'aimer de tout son cœur, et ainsi le témoignage. Et si nous avons cet amour pour Dieu, eh bien, nous rendons aussi témoignage à la victoire que Dieu a remportée en travers de Jésus-Christ dans son amour jusqu'à donner sa vie à Golgotha. Et puis, cette assurance que nous vivons, que le Seigneur va venir et il va venir pour chercher son épouse. Et comme il dit au verset 15, et que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et là, quand il dit le bienheureux et seul souverain, il parle de Dieu en tant que seul Dieu et Père. Il est souverain, il est roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais c'est vrai que Jésus doit aussi régner sur la terre comme roi sur la terre. Il va régner sur cette... quand il vient avec son épouse. C'est pour établir son royaume, son règne, c'est pour manifester ce que c'est que la royauté. Pour le moment, eh bien, il faut qu'on soit des royalistes. Je veux dire, pour le moment, c'est la démocratie, comme on dit, ou la dictature, ce sont des systèmes de ce monde. Et chacun prétend être meilleur que l'autre. Et même, c'est frappant, je relis encore des prédications de Frère Branham dans lesquelles il montre bien comment, en somme, la femme, elle a supplanté, si on peut dire, l'homme, en pensant qu'elle allait faire mieux. Mais il ne faut pas croire qu'elle a fait mieux et qu'elle peut faire mieux. La femme ne peut pas faire mieux que l'homme pécheur. De toute façon, les deux, que ce soit homme ou femme, ils sont dans le péché, ils sont incapables de manifester la justice et la paix et la vie dans le monde entier. Il faut que vienne l'empire du Seigneur, le règne de Jésus-Christ. C'est ça qui doit venir. C'est pas le règne de l'homme ou de la femme. Non, c'est le règne du Seigneur Jésus-Christ et de ceux qu'il va établir. Parce que dans un royaume, nous le savons, la différence avec une démocratie, c'est qu'on nomme pas des gens comme cela. Je veux dire, c'est pas des élections pour mettre quelqu'un à une place. C'est le roi lui-même qui fait ses recherches et qui découvre que tel et tel, il est capable, même si c'est n'importe quel pauvre type, mais qui découvre qu'il est capable, il va lui donner la responsabilité pour gouverner peut-être tout un pays, toute une province. Donc il va établir un règne tout à fait différent. C'est pour cela que dans la prière sacerdotale, la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples, dit que ton règne vienne. Il dit demander que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Nous aspirons donc à ce que le règne de Dieu soit manifesté, qu'il soit déjà manifesté au travers du corps de Jésus-Christ, c'est vrai, puisqu'il a promis de se présenter une épouse sans tache ni ride. Ça veut dire qu'à un certain moment, eh bien, il y aura vraiment un corps qui vit conformément à la volonté du Seigneur. L'épouse qui sera enlevée, c'est parce que elle sera prête pour être enlevée. Seulement, elle sera enlevée pour qu'il y ait les noces, et puis le Seigneur achève ce qui doit être achevé, et il revient avec son épouse pour régner. Il va régner avec son épouse. Chacun à sa place va prendre sa place pour régner avec le Seigneur. Donc, c'est lui qui possède, qui seul possède l'immortalité, verset 16. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Donc, le seul qui possède l'immortalité, c'est Dieu en tant que Dieu. Jésus-Christ, il a été mortel. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il fallait qu'il soit mortel pour pouvoir expier le péché de l'homme, puisque c'est l'homme, par l'incrédulité, par la désobéissance, qui est entré dans la mort. C'est l'homme qui a inauguré la mort. Avant, on ne voit pas qu'il y avait la mort. Chaque chose développait normalement, mais quand l'homme, eh bien, il a péché, il a même entraîné l'humanité, la création tout entière. Il est dit qu'elle soupire après la révélation des fils de Dieu afin d'avoir part à la gloire des fils de Dieu. Et la gloire des fils de Dieu, c'est de ressusciter, c'est d'être une nouvelle créature, c'est d'avoir retrouvé la communion, la similitude, on peut dire vraiment, la ressemblance avec le Père et manifester les mêmes œuvres. Et la création, elle soupire, elle voudrait voir, parce qu'elle-même a été entraînée dans la corruption, dans la chute, à cause de l'homme, c'est pas à cause d'elle, c'est pas la création qui est tombée, c'est l'homme qui l'a entraîné dans sa chute. Donc, les fils de Dieu, il faut qu'ils soient manifestés déjà dans le corps de Christ, il faut qu'ils soient manifestés et pour être enlevés et pour revenir afin de régner. Mais et ce Dieu, le bienheureux et seul souverain, c'est lui seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Ça veut dire que, en tant qu'homme, nous ne pouvons pas la voir. Il faut qu'on devienne fils de Dieu. Il n'a pas dit que les fils de Dieu ne verraient pas cette lumière. Non, c'est au contraire. Et si on ne devient pas fils de Dieu, oui, on ne pourra pas entrer dans cette lumière, dans cette communion, on ne pourrait pas supporter. C'est bien dit que nul homme n'a vu ni ne peut voir, parce qu'il périrait, ne peut pas supporter cette lumière, cette gloire, cette sainte présence, il ne peut pas. Il faut donc qu'on ait la nouvelle nature, et c'est la nature du Fils de Dieu, du Fils ressuscité, c'est cette même nature qui doit donc être manifestée en nous. Ni ne peut voir à qui appartiennent donc l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc à ce Dieu, ce seul vrai Dieu-là. Donc c'est important que ce Dieu invisible, qui est notre Père, mais que nous connaissons au travers de Jésus-Christ, il faut bien qu'on réalise la grandeur de ce Dieu que nous servons. Parce qu'on peut facilement, si on regarde qu'au Seigneur Jésus-Christ, on peut facilement s'imaginer seulement un homme, parce qu'il s'est abaissé, s'est dépouillé de sa gloire, et pour vivre comme un simple homme, et donc on pourrait dire un homme comme un autre homme, mais il faut pas oublier qu'en lui, il y a plus. Il y a ce Dieu, il y a ce Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est ce Dieu-là, vraiment, qui est au-dessus de toute chose, qu'il faut qu'on puisse apprendre aussi à respecter et à honorer dans notre marche de croyant. Après, donc, il y a l'exhortation, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Donc, pas mettre notre espérance. Le riche, même s'il a des richesses, les richesses ne sont pas sûres. La seule chose sûre, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie que Dieu nous a donnée, c'est la vie éternelle, c'est ce qui est sûr. Et en nous donnant son Fils, Dieu nous a tout donné avec lui. Nous avons tout ce qui est nécessaire si nous avons cette vie éternelle. Ça, c'est une richesse qui est sûre, la vie éternelle. Donc, et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre, donc leur espérance, en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc il faut qu'on puisse mettre en Dieu, parce que c'est pas seulement pour les riches, c'est pour tous, de mettre en Dieu ce Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions, que nous puissions en jouir. Donc je l'ai déjà dit, c'est le Seigneur qui a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que si vous avez des richesses, vous pouvez donner. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas donner. Donc, vous ne pouvez pas vraiment jouir. C'est déjà avoir la vie, déjà avoir la vie, déjà manifester la vie. Ben, c'est quelque chose. Peut-être, je ne sais pas. Mais je devrais quand même vous le dire. Ça m'est arrivé plusieurs fois que des personnes qui me téléphonent, qui ne me connaissent pas, et puis on arrive, on parle, mais dit, mais quel âge vous avez? Mais vous êtes tellement jeune, vous avez la voix jeune. Je leur ai répondu encore aujourd'hui. J'ai dit, c'est parce que je prêche la parole de Dieu. La voix jeune, c'est vrai, si on est en Christ, si on est dans sa parole, si on prêche sa parole, si on rend témoignage, eh ben, il y a quelque chose quand même qui se marque en nous, on a quand même une richesse. Donc, c'est une chose. Même cette personne, c'est pas la première fois qu'elle me téléphone, je la connais pas, c'est une femme elle vous a peut-être même eu téléphoné, je sais pas ce elle nous propose des vins de Bordeaux, des choses comme ça. Vous n'avez jamais eu ces choses? Non? Mais j'ai remarqué, elle m'a téléphoné de nouveau, elle m'a pas dit qu'elle était, j'ai reconnu, mais elle m'a même pas parlé de ce qu'elle me proposait. Elle m'a parlé au moins une demi-heure, elle m'a raconté sa vie. Si vous voulez. Non, je dis ça pour dire que nous avons quand même une richesse que nous portons en nous. Si nous avons la joie, si nous avons la reconnaissance, si nous sommes reconnaissants d'appartenir à ce Sauveur, et puis d'avoir une espérance qui ne trompe pas, eh bien, il y a quand même une manière de vivre qui est différente. Vous ne pouvez pas rester comme vous étiez quand vous êtes venu à la foi, ce n'est pas possible. Vous devez être... La parole de Dieu va vous changer. L'esprit de Dieu, la vie, la communion, la marche avec lui, ça va vous changer. Ça doit vous changer. Ça doit être normal, c'est ça. Voilà. Et bon, je continue de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Qui nous donne avec abondance. Des fois, il semble que Dieu ne nous donne pas avec abondance. Hein, qu'il nous manque, il semble, il nous manque, on aimerait bien avoir une abondance, mais certainement qu'il s'agit de l'abondance spirituelle. C'est ces abondances-là. Mais je crois aussi que le Seigneur veut qu'il veut pouvoir à nos besoins. Seulement des temps d'épreuve. Quand on pense, justement, quand on lit, Frère Branham rend témoignage, comment il était éprouvé après avoir cru. Alors qu'il prêchait l'évangile partout, et voilà, son frère meurt dans ses bras, sur la route, enfin, il va l'enterrer, c'est son père qui meurt dans ses bras. Après, c'est sa femme. Et pour finir, c'est sa petite fille. Et alors, évidemment qu'il était tenté, mais le diable l'a tenté de dire, mais c'est Dieu-là, comment tu fais tout ça pour lui, puis voilà, comment il te récompense. Mais il a été victorieux et il ne s'est pas laissé. Et il a dit, non, Dieu est bon, Dieu est juste, etc. Mais il semblait que ce n'était pas juste. Il avait raison dans un sens. Pourquoi? Mais il avait compris après, il avait besoin d'être éprouvé. Et il dit, à présent, donc c'est des années après qu'il peut dire, ben, si je n'avais pas été éprouvé comme ça, je n'aurais pas pu être ce que j'ai pu être pour beaucoup de personnes. Je n'aurais pas pu être le témoin. Je n'aurais pas pu apporter la parole. Il y a des milliers, des millions même de personnes qui sont venues à la foi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait passer par cette épreuve, précisément pour l'amener à manifester la nouvelle nature, la nature du Fils de Dieu. Et ben c'est pour ça que des fois on a des épreuves, mais Dieu, il est comme c'est écrit ici, il donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres et d'avoir la libéralité de la générosité. Évidemment, il dit ça spécialement pour les riches parce qu'ils ont la possibilité d'avoir de la libéralité, de la générosité. Mais pour tous les hommes qui ont une possibilité, même s'ils ne sont pas très riches, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. C'est ça qui est important, saisir la vie véritable. Il y a une vie qu'on peut vivre, on peut avoir des facilités et de tout cela, mais la vie véritable, c'est la vie en accord avec notre Dieu, en accord avec notre Père céleste, en accord avec les desseins que Dieu a faits pour restaurer cette terre. Parce que même si on a des épreuves en tant que croyant, si on a des épreuves, mais c'est parce qu'on est éprouvé justement pour que le monde puisse voir qu'on est sûr, on est certain de ce Dieu que l'on sert. Ce n'est pas un Dieu comme ça, dire, ben, il ne m'a pas répondu, je vais le chercher ailleurs. C'est vrai, parce que les gens écrivent la religion de cela, bon, cette religion elle n'est pas bonne, elle n'a pas répondu à mes desseins, alors on va chercher une autre religion. Mais ceux qui ont fait une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur les a fermés, et même s'il y a des épreuves, ça peut être une occasion de témoignage pour d'autres personnes. Donc, le Seigneur donne toutes ces exhortations ici, recommandant donc de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir, donc pour la vie éternelle, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Saisir la vie heureuse même dans les épreuves. De saisir que cette épreuve, finalement, elle nous a fait avancer. Cette difficulté, elle a été surmontée par le secours du Seigneur. Et ainsi, on a plus d'assurance dans le secours que Dieu peut nous apporter, puisqu'au fur et à mesure, il y a des expériences qui s'accumulent et qui prouvent qu'il s'occupe de nous. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. En évitant les discours vains et profanes. Vain, ça veut dire vide. Profane, ça veut dire qui n'ont rien de spirituel. Hein? Vain, il n'y a rien. Vide, c'est du vent. Et puis, profane, oui, il semble qu'il y a des réalités matérielles, mais c'est charnel. Et évite donc ces discours, qu'ils soient vains ou qu'ils soient profanes, évite donc de faire ces discours et les disputes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Il me semble qu'il y avait un mot là que je voulais relever, que j'avais noté où est-ce qu'il était ce mot. Mais oui, où est-ce qu'il parle de ce... Voilà, le verset, au chapitre, au verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt. Voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, garde le dépôt? Quel dépôt? Eh bien, il faut lire dans 2 Timothée. En fait, je vais vous le lire tout de suite, le passage de 2 Timothée, et vous comprendrez mieux ce que ça veut dire. C'est au premier chapitre, le verset 13, il dit, 2 Timothée, premier chapitre, verset 13, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Je pense que vous comprenez mieux maintenant ce que ça veut dire. Il dit « Garde, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Le dépôt qu'il a reçu, ce sont les paroles, les enseignements. Le dépôt, c'est, c'est quelque chose qui est mis dans un magasin, qui est mis dans un endroit, on va peut-être pas l'employer tout de suite, mais qui est là comme une réserve. Un dépôt, c'est une réserve. Et il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui doivent être gardées. Elles sont peut-être pas utilisables aussitôt, mais il faut qu'elles soient gardées, garder le bon dépôt, garder là au fond du cœur, le garder dans sa, vraiment dans sa conscience. Et ainsi, il y a une réserve, c'est un dépôt. Il dit bien, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, vous trouvez le mot dépôt déjà à la fin de la première épître de Timothée, au verset 20, quand il dit au Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Donc, garde le dépôt de l'enseignement de la parole de Dieu que j'ai pu t'apporter, que tu as pu recevoir Cela, garde-le, mais ne perds pas ton temps avec les disputes de quelques-uns qui se sont détournés de la foi au verset 21, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi qui leur avait été enseignée par la parole, par la révélation de la parole, par l'enseignement de la parole de Dieu, parce qu'on a besoin d'avoir cette parole. Quand on connaît, par exemple, dans le passage, le premier de tous les commandements, on a un bon fondement, c'est vrai. Quand on se dit, écoute, Israël, on peut le détailler, hein? Écoute, Israël, c'est-à-dire, écoute mon pape, toi le pape qui marche avec moi. Le Seigneur, ton Dieu, est l'unique, le seul, un seul. Donc, pas besoin de se laisser tromper par un enseignement de la Trinité ou d'un culte des anges, je ne sais pas, quelques histoires, non. Le Seigneur, ton Dieu, est l'unique, un seul. Alors, la troisième étape, c'est tu l'aimeras de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Alors, le Seigneur Jésus peut ajouter, plus tard, il peut ajouter, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien que la pensée de tu aimeras ton prochain comme toi-même, elle est déjà dans l'Ancien Testament. Mais c'est Jésus qui a dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu peux pas, si tu n'as pas ce dépôt-là, si tu n'as pas cette connaissance de la chose essentielle, si c'est par là en toi, eh ben, tu es sans ressources, tu es emporté de gauche et de droite. Tu peux être emporté de gauche et de droite. Mais si tu as ce dépôt-là, si tu as, c'est bien là au fond de ton âme, si c'est bien dans ta pensée, si tu as bien compris ce qui est essentiel, alors tu peux toujours revenir et regarder à lui. Donc, c'est très important et si on peut pas aimer Dieu, un seul Dieu, et de tout son cœur, toute son âme, on ne peut pas aimer tous ceux qui ont été créés, engendrés par Dieu. Mais si on aime Dieu, on aimera aussi tous ceux qui sont nés de lui, premièrement ceux qui sont nés de la foi de lui, mais aussi les autres qui sont pas encore nés de nouveau peut-être, mais on peut les aimer parce qu'ils ont quand même été créés par Dieu. Et comme on le sait, la parole de Dieu, une autre parole dit, Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est aussi un bon dépôt. Ça, c'est une vérité aussi qu'il faut garder au fond de soi-même. Il faut bien penser que Dieu voudrait que tout soit sauvé. Parce que comment est-ce qu'on peut parler, discuter avec des gens qui sont incrédules et puis qui pourtant, ils ont au fond d'eux-mêmes, ils ont quand même, ils sont incrédules parce que ils voudraient croire. Je veux dire, ils essayent de contester parce qu'ils cherchent quand même la vérité. Mais alors, si moi, j'ai pas cette assurance, après tout, toi, tu n'es pas un élu, ma foi. C'est vite classé, dire, oh, ben, celui-là, il n'est pas un élu. Non, moi, je sais pas les élus. Ce que je sais, c'est que s'ils peuvent croire, c'est qu'ils ont été élus, prédestinés, et ils ont cru. D'accord. Mais quand il y a des personnes, il faut du temps pour qu'ils arrivent à la foi. Hein? Donc, si moi, je ne peux pas croire que Dieu voudrait qu'ils soient sauvés, et que je ne peux pas leur dire, mais Dieu voudrait. Ah. Mais on peut-être, on va réussir à les convaincre, à rechercher plus pratiquement, d'une manière plus proche, c'est-à-dire de chercher en Jésus-Christ le salut et la délivrance. Peut-être on peut leur aider de cette façon-là. Bon, voilà pour la première épître de Timothée. Il termine en disant, que la grâce soit avec vous.